Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo qui libère les prisonniers. Grosse émission aujourd'hui avec du Milan San Remo, du Tour de Catalogne. Point commun entre les deux d'ailleurs, Pogacar. Le Slovène a encore échoué dans sa quête de la Primavera. Arrivera-t-il à emporter les 5 monuments parce qu'il veut être le plus grand de l'histoire? Y arrivera-t-il? Ça aussi c'est une question que l'on se posera. Ce sera dans la deuxième partie. Il y aura aussi des infos sur Lenny Martinez et la Groupama FDJ. Un petit peu d'Alaphilippe aussi. Et puis un quiz, on l'espère, avec cette bande de joyeux lurons qui sont avec moi aujourd'hui. On va essayer d'ailleurs de le libérer. Vous le voyez normalement, pour ceux qui nous regardent, il a essayé de mettre un petit visuel de prison. Ça se voit pas trop sur notre petite vidéo là. Mais la Tib est bien présent. La Tib en prison, de retour. On va essayer de le libérer. Salut la Tib.
Salut, salut. Johan. Salut, Rémi. Et puis, vu que tu m'as libéré, je pense qu'il est temps que j'aille faire un tour du côté de notre entreprise ferroviaire en changeant de fond.
Oui, parce que tu travailles à la SNCF hein, depuis quelques temps maintenant.
Depuis peu.
Oui, depuis peu. Donc, rappelons que tu t'es fait ban de X parce que tu as mis un logo de la SNCF pour être, bien sûr, à fond avec Axel Laurence. Axel Laurence, d'ailleurs, tu nous l'as promis en invité. Est-ce que c'est comme Anthony Nicolas et le barbecue avec Julien et Philippe, on va se le mettre dans l'eau, c'est ça, c'est...
Bon, non, mais on va pouvoir essayer. Oh, en vrai, je pense que tu auras plus de facilité à l'avoir que moi, mais vas-y, ouais. Je tente le coup, je relève le défi.
Qui est un ami de la famille, Axel Laurence, n'en oublie pas, puisqu'il est passé par sa déraille il y a de ça quelques mois. Bon, Rémi, c'est bon, je t'introduis. Bonjour Rémi, de retour. Comment vas-tu?
Mais ça va très bien. Vous m'avez beaucoup manqué hein, pendant ces semaines d'absence, mais... Je suis très heureux de vous retrouver.
Alors, petite question. Déjà, c'est pas un quiz. Hein. Combien de courses de vélo as-tu regardé depuis le début de la saison? Est-ce que c'est plus ou moins Est-ce que c'est plus qu'Anthony ou moins qu'Anthony? Parce que Anthony est en train de répondre sur le chat.
Alors, c'est certainement plus qu'Anthony. Mais en même temps, plus que zéro, c'est pas difficile.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il dit que tu ressembles à une statue. C'est ce qu'on disait avec ton fond blanc derrière.
J'ai pas le droit de bouger.
Oui, t'as pas le droit de
bouger. Je suis en cellule aussi.
Ouais. Oh bah, dis donc, on a que des prisonniers aujourd'hui. Allez, on va parler vélo maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va d'abord discuter de ce qui s'est passé ce week-end parce qu'il y a eu une grosse course, un gros monument avec une belle victoire de Jasper Philipsen.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein.
C'est donc Jasper Philipsen, le Belge, qui a remporté le premier monument de la saison. Une victoire au sprint hein, de quelques centimètres devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. Bon, la première question, je vais la poser déjà là, Tim. Pour commencer, on va libérer sa parole. Comment tu as trouvé cette course? Est-ce que tu l'as trouvée aussi somptueuse que les années précédentes? Est-ce que tu es resté sur ta faim? Fais-nous un petit débrief de ton kiff samedi dernier.
Ouais. Je vais dire que je finis ce monument avec un sentiment assez ambivalent. D'abord parce qu'il y a un goût d'inachevé dans la Cipressa. On le sait, il y a eu énormément d'effets d'annonce, notamment sur la déclaration de Machin. Mais on n'a pas eu cette Cipressa sous un gros tempo qui aurait permis de l'avoir sous les 9 minutes. Donc de ce côté-là, il y a un petit goût légèrement amer. Mais par contre, le final est sensiblement le même que les années précédentes. On est sur une course qui est dans ses standards, avec une indécision jusque dans les derniers kilomètres, hein, même les derniers mètres de cette course. Il y a toujours eu cette tension. On a eu Pogacar qui malicieusement a essayé de jouer un tour au sommet du Poggio. Et puis après, Van der Poel qui revient sur le Sloven. Ensuite, Moritz qui tente ce qu'il a déjà fait par deux fois sur l'Arc Corso Cavallotti avant de triompher dans la descente. Puis après, on a eu les coups de Sobrero et de Pidcock qui, ma foi, a joué presque la victoire à 100 mètres près. Et une victoire qui s'est jouée au lancer de vélo. Donc non, c'est une très belle édition malgré tout de Milan-San Remo.
Alors Rémi, je veux avoir ton sentiment aussi, parce que c'est vrai qu'on a encore eu une belle audition, hein, avec du suspense jusqu'au bout, mais pour la montée du Poggio, je l'ai trouvé un peu moins folle. Alors, ils ont battu le record, encore une fois, donc quand je dis un peu moins folle, je veux dire en termes d'attaque, de suspense, on en a vu une de Pogacar, mais il n'y a pas eu vraiment de réponse derrière. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça?
J'allais te dire aussi qu'ils avaient quand même battu le record en amont. Mais c'est vrai que cette montée du Poggio, je l'ai trouvée un petit peu moins spectaculaire qu'on a pu voir ces dernières années, surtout l'année dernière. Je pense que de toute façon, c'est difficilement égalable. C'est vrai que la tentative de Pogacar, moi, je l'ai trouvée un petit peu... Enfin, Molasson, c'est peut-être un petit peu un gros mot. On va respecter quand même Tadej. Mais ouais, j'ai pas trouvé que c'était du grand Pogacar, et même d'une manière générale, je pense que UAE... pas fait une grande course, et c'est ça, c'est un tout. Après, au niveau des autres, je pense que ceux qui ont tenté leur chance, ils n'avaient pas le choix. Donc je suis assez satisfait de ce final, un peu comme Tib, mais ouais, le Poggio un petit peu à oublier, on va dire.
Ouais, Tib, tu l'avais dit un petit peu aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques dans le Poggio. Mais alors, on parlait du AE, d'ailleurs, Tadej Pogacar a dit aussi que voilà, son équipe s'est vue un petit peu trop belle, puisqu'elle a mené un gros, gros tempo, et finalement, elle s'est écartée peut-être un petit peu loin. C'est un peu ça ce qu'il disait du côté du AE, mauvaise stratégie de la part de cette équipe pour toi, la Tib?
Non, la stratégie était la bonne. Le problème, c'est que pour l'appliquer, ils étaient bien trop peu nombreux. On a eu un Diego Ulissi qui, malheureusement, a été absent.
Un petit peu moins bien, ouais.
On a un Marc Hirschi qui a malheureusement été invisible, mais c'est un peu l'apanage du coureur suisse sur les courses World Tour. Et j'ai envie de te dire, sur les courses où il est aligné et qu'il n'a pas le statut de leader de son équipe, il est souvent aux abonnés absents, et c'est ce qui leur a manqué dans cette Cipressa pour faire un gros tempo. On l'a laissé aux mains de Del Toro, qui reste un néo-pro, qui découvrait ses longues distances, et on l'a vu, ça a tiré. Il a assuré un relais de à peu près 5 minutes 30, donc 5 minutes à bloc, après un relais de Kovi qui n'a duré que 45 secondes. Donc mettre le gros du travail sur l'épaule d'un si jeune coureur, si inexpérimenté, ça paraissait quand même assez un peu trop optimiste à mon goût.
Ouais, d'ailleurs, on parlait de...
En gros...
Ouais, Rémi.
Excuse-moi. En gros, il n'y a que Wellens et Del Toro qui ont été au niveau pour aider Pogacar. Les autres, on va pas dire qu'ils ont servi à rien, mais c'était... Quand tu vois l'équipe sur le papier, tu t'attendais quand même un petit peu à mieux, quoi. C'est vrai que Hirschi ou ici Novak, ils n'ont pas été là. Kovi, c'était pas foufou non plus. À partir de là, deux coéquipiers au lieu de cinq, forcément, ça fait la différence.
Oui, avec...
Six, pardon.
Et une autre stratégie d'ailleurs dont je voulais vous parler, celle de Mathieu Van Der Poel, puisqu'il est revenu dans la descente sur Tadej Pogacar, mais il a pas pris de relais, il a pas voulu aller jusqu'au bout, puisque les deux étaient un petit peu échappés du groupe juste derrière. Est-ce qu'on a compris le fait que Mathieu Van Der Poel n'aille pas jusqu'au bout pour aller tenter une nouvelle fois d'aller remporter ce Milan San Remo? On sait que derrière, Philipsen lui a dit de ralentir, mais est-ce que c'est compréhensible, Tim?
Quand tu regardes le résultat final, oui. Bah, il lui donne raison.
Oui, mais c'est pas Mathieu Van Der Poel qui gagne. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais au-delà de ça, en fait, quand tu regardes un peu les difficultés que le champion du monde a eu à combler un peu cet écart qu'il y a eu dans le kilomètre final face à Tom Pidcock, honnêtement, moi, je suis pas loin de penser, et au vu du sprint de Tadej Pogacar dans ce groupe, que Tadej Pogacar n'aurait pas créé un peu la surprise, un peu comme Kwiatkowski l'avait fait contre Peter Sagan il y a quelques années. Hein. Donc, vraiment pas sûr que dans un sprint à deux, c'était donné pour Mathieu Van Der Poel face à Tadej Pogacar.
Ouais, donc ça veut dire que Mathieu Van Der Poel a préféré la carte Philipsen. Philipsen qui a fini par gagner dans cette Primavera, mais il a eu chaud parce qu'il a fait un sprint, on va dire, d'amateur. C'est ce qu'il avait dit lors de ses propos juste après la course face à un Matthews. Alors Matthews, dans le sprint, il y a eu ce jeté de vélo. Il y a eu pas mal de discussions aussi autour de sa perte de lunettes aussi, qui a fait que peut-être ça a un petit peu gêné son sprint. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de regrets si on s'appelle Michael Matthews, Rémi? C'est pas un Portugais, mais bon, on va faire comme si tu étais aussi aujourd'hui. Australien, évidemment. Aussi.
Tu veux que je prenne l'accent, du coup?
Non, ça ira. On est déjà assez ridicule comme ça.
Pour moi, ouais, il peut y avoir énormément de regrets, évidemment. Michael Matthews, il a énormément de talent, c'est un très très grand coureur, mais il lui manque peut-être cette immense victoire qui lui ferait passer un gap très très clair. Et c'était peut-être l'année ou jamais hein, pour Matthews. Alors sur le sprint, bon, je sais pas si ça joue énormément, mais ça n'empêche que ouais, il y aura forcément des regrets. Il peut s'en vouloir, mais en même temps, il tombe face à Philipsen, quoi. Donc, même un Philipsen qui fait un sprint de cadet, bah, ça fait la diff. C'est un peu cruel. C'est un peu cruel. Moi, j'étais quand même, j'étais assez déçu pour Matthews, un peu deg, parce que j'aime beaucoup Philipsen, j'ai rien contre lui, mais bon, entre un mec qui a 33 piges et un mec qui en a 26, ça aurait été beau. Ça aurait été beau pour Matthews, il en aura plus beaucoup hein, des chances.
Oui, c'est vrai, un personnage sympathique, et surtout se retrouver là, c'est déjà très bien. Hein, Philipsen aussi l'a dit, c'était son jour, ou peut-être son jour de gloire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il en a profité jusqu'au bout de ce travail de Mathieu Van Der Poel. Il y a eu des déceptions, des bonnes notes à donner, Tib, par rapport à ce qu'on a vu sur Milan San Remo.
Moi, j'en ai quelques-uns. La déception majoritaire, j'ai envie de te dire, c'est ce collectif Emiretti qui n'a pas su épauler son leader, et un leader qui a peut-être... C'est peut-être aussi vu un peu trop beau quand tu vois sa déclaration avec Tim Wellens où il hésitait à partir dans le Poggio et placer une attaque. Il a un peu trop d'énergie. On l'a vu aussi aujourd'hui. Ouais. La bonne note, je l'ai déjà donnée à Del Toro. J'ai pas envie de donner une mauvaise note, tu vois, à Laporte, en sachant qu'il était malade.
Ouais.
Mais Pedersen, ça reste la grosse déception.
Pedersen, le sprint de Pedersen, parce que vraiment, lorsqu'on voit tout le monde regroupé, c'est quand même le bonhomme aussi avec Philipsen qu'il faut surveiller, on va dire, en tout cas qui est attendu dans la dernière ligne droite.
Quand tu sais qu'il arrive avec Philipsen, c'est compliqué. La déception peut venir de Matthews, qui, mine de rien, malgré sa très belle deuxième place, a manqué un peu de fourberie. À mon sens, il aurait peut-être dû fermer la porte du côté des barrières à Philipsen. Et là, le monument lui tendait sans doute les bras.
Oui, Philipsen, qui l'a remercié d'ailleurs pour ça, de lui avoir laissé la porte ouverte. Non, m'étonnes. Tu m'étonnes, t'es plutôt content. On parlait des bonnes notes ou des mauvaises notes. Julien Lafilippe, bon, alors... Malchanceux comme d'habitude, crevaison dans le dernier kilomètre, il n'a pas pu faire le sprint. On n'imaginait pas qu'il remporte ce Milan San Remo, hein, évidemment, avec les personnes qu'il y avait autour de lui, notamment dans les cadors du sprint. Mais bon, Rémi, Alaphilippe, le voir ici avec les meilleurs, franchement, ça a été rassurant et ça a été plutôt sympa de le voir à ce niveau-là, de le revoir en tout cas à ce niveau-là.
Bah, c'est une immense surprise. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, je ne voyais pas Julien faire top 10 de ce San Remo en terminant dans le groupe du vainqueur. Donc, non, c'est hyper, hyper positif. Il a, c'est mis en San Remo, hein. C'est 300 bornes quasiment, c'est 6 heures d'effort. Là, le final se court très vite. Et on sait que Julien, bah, depuis quelques années, c'est vrai qu'il a du mal justement quand ça s'emballe. Là, il a été dans le coup, il a réussi à tenir, il a été. Alors, il n'a pas été acteur, oui, il a juste, je mets des gros guillemets, suivi, mais il a été là, il a été présent. Et ça, c'est un très bon message pour notre cher ami Patrick. Et pour évidemment tout le reste du peloton, il n'est pas complètement cramé. Et un Julien qui retrouve de la confiance au-delà de son physique, surtout. Il va peut-être retrouver de la confiance avec ce résultat et il va aller peut-être aller nous claquer encore des belles victoires. Ouais, Julien, moi, j'y crois.
Ouais, Julien Alaphilippe qui engrange en tout cas de la confiance avant les classiques belges. Hein, c'est l'un des objectifs de la saison. Tibe, est-ce que tu crois au renouveau de Julien Alaphilippe après ce Milan-San Remo?
Le Milan-San Remo, finir 9e avec une crevaison en pareille société, forcément, c'est bon pour le moral. Maintenant, je ne vais pas me faire d'illusions ou de plans sur la comète pour les classiques à venir, mais c'est l'occasion parfaite en fait, de distribuer des bons points à Alaphilippe au cours de ce Milan-San Remo, en sachant que ça fait quand même quelques temps qu'il accumule les mauvais points.
Oui, mais bon, il a encore, c'est vrai qu'il a encore cette malchance. Il n'y arrivera pas à faire une course sans... Bah là, la crevaison, pour autant la chute, ça peut être aussi toi qui ait quelques difficultés. La crevaison, là, pour le coup, c'est vraiment pas de bon.
Ouais, mais bon, même sans crevaison, honnêtement, il fait quoi? Il fait guère mieux que 4-5e.
Oui, non, mais c'est clair. Surtout qu'il fait partie du deuxième wagon qui revient dans un deuxième temps dans le podio et après dans la descente. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été acteur, mais ne serait-ce que de revoir aux avant-postes, c'est déjà très bien. Voilà donc pour ce Milan-San Remo. On ne va pas trop s'étaler dessus. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire. On l'a fait avec des déclarations de Philippe Sen, on l'a dit aussi. Un final somptueux. Tiens, petite question que je me posais parce que. On faisait la comparaison sur les réseaux sociaux de Milan-San Remo avec ce final où tout le monde attend que ça dans ses derniers kilomètres dans le Poggio et tout. Plus fort ou moins fort que le mur de Duy? Tiens, on va commencer par Rémi, la flèche wallonne. En termes de suspense, parce que ce que tu attends le plus, parce que c'est vrai que la flèche, on arrive, on zappe, bon, même si ça va peu changer cette année avec un profil et un parcours différent avec plusieurs montées du mur. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui est le plus, j'ai envie de dire, où il y a plus de suspense? Est-ce que c'est le mur du Huy ou est-ce que c'est le Poggio?
Je vais quand même dire le Poggio. Parce que tu as quand même plusieurs types de profils différents qui peuvent s'en sortir et gagner Milan-San Remo. Je veux dire, c'est une classique, un monument qui sourit autant aux baroudeurs, punchers, sprinters, etc. Donc tu as un peu tout. À 8, tu as quand même pas que des mecs qui ont un bon punch maintenant. C'est vrai que le mur de 8, ça a quand même sa saveur. Je vais quand même mettre le Poggio. Mais plus par l'importance de la course. Par la grandeur de San Remo, plus que par ce qui s'y passe.
A-t-il Poggio ou mur de Huy?
Poggio, très clairement, parce que la course, on le sait, avec Pogacar, peut potentiellement se décider, et peut-être dans les années à venir, s'il renforce son équipe encore dans la Cipressa, mais au-delà de ça, ça peut se jouer dans le Poggio, au sommet du Poggio, dans la descente, sur la Corso Cavallotti ou sur la Via Roma. Donc il y a beaucoup d'indécisions qu'il n'y a pas du côté du mur de Huy. Quoique, cette année, j'ai peut-être un doute. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une anticipation au vu de la force de Tadej Pogacar et de la présence de Remco Evenepoel? Je commence de plus en plus à me poser la question quand je vois l'indécence du Slovène en ce moment.
Ouais, il anticipe de plus en plus. On l'a déjà vu sur les Stradés. On en parlera aussi sur le Tour de Catalogne un peu plus tard. Mais en attendant, il y a d'autres choses qui sont passées dans le Vol. Il n'y a pas eu que Milan-San Remo et le Tour de Catalogne. Il y a eu plein d'autres courses et plein d'infos. C'est on attaque pas tout de suite.
Attaque de Pierre Rolland encore une fois.
Personne ne réagit.
Alors j'ai plein de choses, j'ai plein de choses à vous proposer. Les prolongations chez Lotto Destiny avec Van Gils et Van Enveldt. Van Gils qui était dans le final aussi de Milan-San Remo.
Tu peux rajouter Delhi.
Et Deli aussi, voilà. Donc il y a eu trois prolongations pour la Lotto Destiny. Ça, ce sont des bonnes choses. Mathieu Van Der Poel aussi a prolongé jusqu'en 2028 et avec Canyon jusqu'en 2072. Je crois que plus un peu plus.
À peu près.
32, 33, je sais plus combien. Mais...
34, je crois, officiellement.
Bon, bref, je m'en souviens plus exactement. Mais bon, c'est un partenariat qui va durer très longtemps. D'ailleurs, pour Alpecin, petite info aussi, je sais pas, sûrement tout le monde doit l'avoir, mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il va rester sur route jusqu'en 2028. Hein, c'est un contrat qui le lie à l'équipe, mais pas forcément à l'équipe sur route. Voilà, donc il pourra arrêter avant le coureur néerlandais. Donc j'avais ça à donner. Le casque de la Visma qui est homologué pour cette année. Quand je parle du casque, c'est bien sûr le casque de chrono avec cette forme assez bizarre. Le coup double de l'Apera, on parle aussi dans le chat sur la classique Loire-Atlantique et Cholet. On a aussi Kopecky qui a été battu sur le Trofeo Alfredo Binda. Mozzato, vainqueur sur Bredene face à Deli qui a fait un truc extraordinaire puisqu'il a réussi à revenir d'une cassure à une autre. D'un groupe à un autre avec une force plutôt incroyable. Et puis les dernières infos sur Lenny Martinez, plus que jamais sur le départ de la Groupama FDJ, et en plus peut-être un Lorenz Pitti aussi. C'est, ça va plus très bien à la Groupama FDJ, ça c'est sûr. Non, pas, on se le met de côté. La type, il y a quoi que tu as, voilà, que tu ce dont tu veux entrer dans
en
les
soi,
détails.
Avec ton dernier élément, du côté de la Groupama, on peut faire un mix des deux avec les prolongations chez Lotto Destiny, hein, parce qu'on voit l'équipe managée par Stéphane Hulot n'a pas les gros moyens des grosses équipes, mais elle arrive à garder ses talents. Une problématique en fait à laquelle la Groupama FDJ est confrontée et qui n'arrive pas à lutter face aux superpuissances. Tu le dis, on a un Lenny Martinez qui commence à se confirmer du côté des Bahreïn. On va quand même garder les points d'interrogation. On a là l'info du jour, Lorenz Pitti qui sera en partance du côté de la Bora. On a des points d'interrogation encore du côté de Romain Grégoire où on sait qu'il est courtisé par les grosses équipes. Ça commence à faire beaucoup. En fait, la Groupama FDJ, on a un peu l'impression, c'est James qui le disait sur Messenger, que c'est l'Ajax du monde du vélo, mais on a l'impression qu'elle est reléguée au rang des Conti italiennes qui se font spoiler tout leur talent.
Ouais, non, mais ça, c'est ça qui est très bizarre. Alors, je ne connais pas exactement le budget de la Groupama FDJ, qui a, selon les dernières informations.
Mais il est inférieur à celui de la Lotto.
Bah, c'est 20 millions d'euros, voilà, qui est le budget qui était annoncé. Peut-être que les chiffres ne sont pas bons, mais voilà, c'est quand même supérieur, en tout cas, ce qui est écrit sur la Lotto Destiny, qui a 16 millions d'euros. Ça a peut-être bougé encore une fois, les chiffres, on ne les a pas exactement, mais c'est ce qu'on a dans de nos dernières rumeurs et informations. Donc du coup, voilà, alors, on a perdu donc Thibaut Pinot qui avait un salaire de 2 millions d'euros, Arnaud Démare qui était à 1,8 million d'euros. Ne pas pouvoir garder ne serait-ce que Lenny Martinez ou Lorenz Pitti et ou Romain Grégoire, Rémi, franchement, je suis de plus en plus inquiet. À chaque fois, je vois une rumeur des coureurs partir. C'est très inquiétant, je trouve.
Bah, c'est très inquiétant. Moi, ça me rappelle, alors, pour l'instant, dans une moindre mesure, parce que c'était moins soudain, c'est ce qui s'est passé avec la DSM, qui a perdu absolument tous ses grands noms à partir du moment où Romain Bardet est arrivé. Je ne sais pas s'il y a rien de cause à effet, j'en doute sérieusement. Mais avec des mecs qui partaient du jour au lendemain. Souvenez-vous du départ de Marc Hirschi. C'était assez soudain et DSM est devenue une équipe complètement, quasiment anodine dans le peloton. Donc oui, ça fait peur parce que tu l'as dit, tu t'es débarrassé, entre guillemets, tu t'es délesté de gros salaires avec les départs de Pinot et de Démare l'année dernière. T'as un budget qui est quand même assez conséquent avec deux gros sponsors. T'as des coureurs que tu as fait grimper, donc qui font vraiment partie de la famille Groupama FDJ, quoi. Donc ils sont là depuis le début. C'est pas des mecs que tu as juste recrutés il y a un an ou deux et que tu as fait progresser, etc. C'est tu les as fait progresser, tu les as mis sur le vélo entre guillemets, quoi. Donc c'est assez inquiétant parce que s'ils ne sont réduits qu'à être un centre de formation, alors c'est très cool, hein, c'est sûr, mais au final, à un moment, tu vas pas aller très loin. Et comme l'a dit la type, ça ressemble à une équipe de Conti, quoi. Qui peut pas lutter. Maintenant, quand on voit les noms des équipes où ils sont annoncés, Martinez et Pitti, on parle de la Bahreïn, on parle de Bora, bah c'est des équipes qui ont des budgets bien supérieurs. Il y a aussi toutes ces histoires, on le sait, d'imposition, où en France, souvent un petit peu en difficulté par rapport à d'autres structures sportives étrangères, notamment pour les barémies. Donc, malheureusement, c'est toujours le problème, hein. C'est toujours une question d'argent et on est rarement, malheureusement, gagnant dans ces cas-là.
On parle aussi dans le chat, hein, et d'ailleurs, ils ont peut-être raison que ça peut aussi être à cause du matériel. À cause du matériel. Donc, ouais. La pierre, c'est terminé. On a changement de matériel avec Willier qui va arriver. Et aussi le sponsoring avec la pierre qui a rapporté de l'argent. Peut-être que c'est différent. Peut-être que là, la Groupama FDJ, la saison prochaine, va avoir baissé drastiquement son budget. En tout cas, quand on voit les dernières rumeurs, ça veut dire quelque chose.
Mais même parce que quand tu vois les résultats qu'ont les Groupama depuis le début de saison, ça reste encourageant. Quand tu vois les résultats justement de ces coureurs issus de la Conti, ça fait quand même une pression supplémentaire, un levier supplémentaire pour les sponsors, pour essayer peut-être d'aligner un peu plus pour garder ces têtes d'affiche qui sont, mine de rien, des têtes d'affiche marketing. Hein. On le sait, Lenny Martinez, du côté français, c'est sans doute la grosse tête d'affiche pour les grands tours. Donc, pour moi, à mon sens, il y a quand même un sens à pouvoir aligner peut-être un peu plus et un peu plus que de raison du côté des sponsors pour le garder.
Oui, alors on parle, alors selon les chiffres, hein, c'est un article d'ailleurs de RMC Sport que j'ai lu, Lenny Martinez avait signé pour 2023 pour 200 000 euros l'année, peut-être que ça a été revalorisé d'ici là, mais forcément pas à la hauteur, par exemple, des salaires qui sont partis, des gros salaires, on parlait de Demar et donc de Thibaut Pinot. C'est vrai que ce que la Bahreïn met en place, a priori avec un échelon, avec un contrat qui peut arriver jusqu'à 2 millions d'euros sous quelques années, bon, ne pas pouvoir lutter là-dessus, ok, mais un Laurens Pitty, par exemple, est-ce qu'on ne pouvait pas le garder aussi, ou un Romain Grégoire? Parce que, en fait, le truc, c'est que ce qu'on peut voir ici, et ce qui est en train de se passer, c'est que tous les talents vont partir. Et en fait, je me dis, on n'est même pas. La Groupama FDJ n'est pas capable de garder ne serait-ce qu'un. Donc, ce n'est pas la Polti Cometa. Voilà, ça reste quand même une grosse équipe, la Groupama FDJ. Une grosse équipe, une grosse cylindrée de World Tour, donc voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu peur. Si Rémi ou Tib, ouais, tu voulais rajouter quelque chose.
Même si t'en gardes un seul, en fait, c'est un échec. C'est même si t'en gardes un seul sur tout ce groupe qui est monté de la Conti ces 2-3 dernières années, c'est un échec. Enfin, c'est assez dingue de se dire que t'es pas capable de garder plusieurs coureurs. Enfin, j'entends bien qu'il y a des très bons salaires à la Groupe FDJ encore aujourd'hui, malgré les départs de Demar et Pinot, mais. Et la team l'a dit très justement, t'as des pépites, t'as des mecs qui potentiellement peuvent amener de grandes victoires. J'ai du mal à croire qu'on ne trouve pas les fonds en plus des mots, parce que évidemment c'est encore une fois une question d'argent, mais il y a aussi, je pense, quelque chose à faire aussi dans le côté psychologique, dans les mots à donner pour montrer que ces mecs-là seront très importants, etc. Donc évidemment que c'est avant tout une question d'argent, mais même si t'en gardes un, enfin si tu perds Pitty, Martinez et tu gardes Grégoire ou un autre, et mais si tu perds les trois, c'est un échec absolu. Si tu perds les trois, c'est un échec absolu. Même si t'en gardes qu'un sur trois, moi je considérais ça comme un échec parce que c'est pas assez.
Et surtout stratégiquement, parce que tu mises, et je pense que c'est aussi intelligent, après c'est leur stratégie, c'est de miser sur la Conti, c'est-à-dire que tu vas récupérer tes cours un an, voire maximum 2 ans, et finalement ils vont partir chez Bahreïn, chez Bora, chez Visma, ou peu importe l'équipe. Ça aussi, la type, ça peut être contraignant pour Marc Madiot, qui va juste finalement être un centre de formation de l'Ajax, disait James. Moi, je trouve que c'est dommageable, c'est-à-dire que de ne plus pouvoir les garder, finalement t'as plus envie de travailler avec ta Conti, parce que sinon finalement si c'est pour les garder un an et qu'ils brillent ailleurs, c'est compliqué.
Bah, ou alors faut réfléchir à quand tu les fais monter, leur proposer des contrats qui sont
10 ans
un
comme
peu plus longue durée, ouais. De plus longue durée. Non, mais enfin, quand tu leur proposes 2 ans, forcément c'est pas non plus ne pas te mettre des épines dans le pied. Et là, ils sont en train de se faire piquer tout leur talent et tout leur gros talent, parce que certes, ils ont eu une très belle formation de Conti et ils en ont signé 8 dans la World Tour en une année, mais ils sont en train de se faire piquer les 3 grosses têtes d'affiche sur les 4, si on inclut Paul Penhoët. Donc ça commence à faire des poids en moi qui sont quand même assez lourds dans le bilan.
Ouais, puis après,
surtout que Paul Penouette, il est en fin de contrat cette année encore, hein, aussi.
Ouais, donc c'est pour ça.
On n'en parle pas, et puis à cause de sa blessure, mais il aurait pu être sur un début de saison qui aurait été stratosphérique. Et là, Paul Penouette, il aurait été courtisé aussi par les autres équipes. Et qui nous dit qu'il ne l'est pas déjà?
Ouais, c'est compliqué. Il y a aussi, il faut le dire, on ne peut pas les signer. Enfin, Marc Madiot est quelqu'un de très intelligent, on le connaît ici, il est déjà venu. C'est sûr qu'il ne peut pas non plus signer des contrats sous 6 ans parce qu'il ne sait pas ce que l'avenir est fait par rapport à son équipe, c'est compliqué. On espère en tout cas que voilà, il y a des bonnes nouvelles parce que Denis Martinez a réagi d'ailleurs sur le Tour de Catalogne en disant j'y penserai plus tard, bon le blabla habituel. Hein. Pour l'instant je suis à la Groupama FDJ et on verra au mois d'août pour les prochaines pour le prochain Mercato et voir les prochaines années. Donc voilà, ce qu'il a dit Lenny Martinez. En attendant, on espère de garder un maximum ses coureurs en France. Mais bon, s'ils brillent aussi ailleurs, c'est très bien pour eux aussi. Donc on a fait beaucoup là-dessus. Est-ce que vous voulez réagir sur un autre truc en attendant, avant de passer à Pogacar? Est-ce que sur l'une des autres phrases que j'ai données dans « En attaque, on n'attaque pas », quelque chose vous a tilté? Deli sur la Bredene classique.
Même au-delà de la Bredene classique, hein, sur le GP de Denain aussi, il a été d'une force monumentale. Sur la Bredene, j'ai envie de te dire, c'est un Deli qui a un peu couru comme un chien fou en lançant déjà à 100 km quand il était dans le groupe d'échappée à 60 km de l'arrivée. C'était lui qui... De quoi ?
Il veut faire une Pogacar.
Ouais, enfin, il faisait ses exos, semble-t-il, parce qu'il était extrêmement fort. Mais au-delà d'être extrêmement fort, il a peut-être un peu mal couru s'il courait pour le gain de l'étape.
Ouais, donc Mozzato qui a remporté la Bredene, je crois que c'est ça, Mozzato. Donc lui aussi, hein, belle performance pour Arkea qui a besoin de points, ça aussi ça fait plaisir. Rémi, autre chose ou on passe à la suite?
Très rapidement, le doublé de Paul Lapeyrat, évidemment, qui confirme encore pour le début de saison de Décathlon à G2R, qui est vraiment solide. Hein. On en parle un petit peu, mais pas tant, finalement, je trouve. Et bon, 6 victoires, et puis ça, pour l'instant, ça se passe bien. Des places d'honneur aussi sur des grosses courses. Donc, j'aime beaucoup le travail qui est remis en place. On a fait un reset après le raté un petit peu de Lapeyrat à G2R Citroën. Ça part très bien.
Ouais, c'est vrai, à fond la forme, c'est ce qu'on disait pour Décathlon à G2R depuis le début de l'année. Lapeyrat le montre aussi, hein. Vraiment.
Et puis à la manière.
Ouais, non, mais vraiment, il attaque sur la fin, donc à Cholet et tout. Il était, ça peut arriver. C'est quelqu'un qui était vraiment en forme et au-dessus de tout le monde ce week-end. Non, mais Décathlon à G2R, c'est sûr, ils font un début de saison magnifique. C'est devenu souvent, on mettait la Groupama FDJ devant en termes d'équipe française, sur le devant de la scène en tout cas internationale. Bah là, pour l'instant, les rôles sont un petit peu changés cette année. Allez, on va allumer la mèche parce qu'on a beaucoup de choses à dire puisqu'on va s'attaquer. Bah non, c'est lui qui attaque. Hein. On va parler de Pogacar.
Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Et donc on va s'intéresser au cas Pogacar, Tadej Pogacar, je sais pas si vous le connaissez, le Slovène qui a été battu une nouvelle fois sur Milan-San Remo. Petite question, on a parlé bien sûr de ce Milan-San Remo, mais j'en ai fait exprès de pas poser la question, la type, tiens, on va commencer par toi. Est-ce qu'il peut avoir des regrets, Tadej Pogacar? Est-ce qu'il a des regrets par rapport à ce Milan-San Remo? Il a terminé 3e sur le podium, très content avec son ami Philipsen.
Au niveau de ce qu'il a fait et de ce qu'il a essayé, moi non. C'est surtout au niveau de son équipe qui n'a pas été à la hauteur du physique imposant de Tadej Pogacar. Hein. La leçon principale, et je l'avais dit, c'est qu'il devra aligner une équipe qui sera 5 étoiles sur les prochains Milan-San Remo pour tenter d'aller faire exploser l'entièreté du peloton dans la Cipressa. Mais sinon, dans le Poggio, il peut pas faire grand-chose. Je l'ai sans doute jamais, rarement vu faire une attaque punchy aussi véloce.
Okay.
Tadej Pogacar, je sais pas pour toi, mais moi, quand je le vois attaquer, souvent, c'est quelqu'un quand même du braqué. Un peu comme ce qu'on a vu hier. Hein, quand,
sur le Tour de Catalogne.
En partant à la chasse de Nick Schulz, hein, c'est quelqu'un qui est punchy, mais en puissance. Donc, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Dans le Poggio, de toute façon, tu sais très bien que avec autant de coureurs qu'il y avait, C'était compliqué de sortir avec plus de 10 secondes. Et les 10 secondes, bah, dans la descente, Mohoric, Mathieu Van Der Poel,
Pitcock,
Tom Pitcock, peuvent les combler. Donc c'est difficile, il faut faire un plus gros éclairage et que le peloton ne se repose pas entre la Cipressa et le Poggio pour que Tadej Pogacar puisse aller la gagner.
Du coup, ma prochaine question pour Rémi, est-ce que c'est le monument le plus dur à gagner pour lui ? Est-ce que c'est encore plus dur de gagner Milan-San Remo pour Tadej Pogacar qu'un Paris-Roubaix, par exemple, qui peut certes se jouer avec donc les spécialistes, mais surtout avec la forme. Il n'y a pas besoin d'attaquer, on peut faire les écarts différemment. Est-ce que c'est Milan-San Remo ou Roubaix qui est le plus difficile à gagner pour Tadej Pogacar ? Je ne veux pas dire actuellement, je veux dire dans sa carrière. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il a plus mis MSR, mais dans sa carrière.
Oui, j'ai bien compris. Je vois bien ta question. Pour moi, complètement. Milan-San Remo sera le plus dur à gagner. Parce que vu le numéro qu'il a montré sur le Tour des Flandres ces deux dernières années, les pavés, ça lui fait pas peur. Alors, je sais bien que le Ronde et Paris-Roubaix, c'est pas exactement la même chose, et que Paris-Roubaix, il y a en plus un peu plus d'incertitude. Donc, évidemment qu'il faudra quand même que les planètes s'alignent un petit peu pour qu'il gagne Paris-Roubaix. Mais étant donné que c'est aussi et avant tout une course à élimination, je pense que il a plus de chances d'aller gagner l'Enfer du Nord que Milan-San Remo. Donc moi, pour moi, et je me souviens qu'on en avait discuté, je sais plus si c'était l'année dernière au moment de sa victoire sur le Ronde, je pense que c'est ça, on s'était dit il peut aller chercher. Et pour moi, ouais, Milan-San Remo, à la manière d'un Philippe Gilbert qui n'y a jamais gagné, je pense que c'est là où ça va être le plus dur de gagner, parce que il est justement beaucoup plus attendu qu'il ne le serait sur un Paris-Roubaix, même s'il sera jamais, il sera toujours attendu et qu'il aura toujours la pancarte, et que le profil de vainqueur est tellement diversifié que, en fait, tout le monde, techniquement, pourrait le battre. Ça pourrait être un Mohoric qui part avant, un Philipsen au sprint, un Van Der Poel qui va le chercher, qui est très fort. Enfin, voilà, il peut y avoir tellement de scénarios différents sur le final de San Remo que, pour moi, ça va être très compliqué pour lui, plus compliqué pour lui d'y aller.
Latib, ton sentiment là-dessus, Milan-San Remo ou Roubaix est plus difficile à gagner pour Tadej Pogacar ?
Très clairement Milan-San Remo, parce que depuis l'introduction de la Cipressa, c'est beaucoup plus difficile de le gagner comparé à un Eddy Merckx qui en empilait 7. Il les a empilés, mais c'était avant le durcissement de Milan-San Remo avec l'introduction de la Cipressa. Mais bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour Eddy Merckx ? Tu me diras, probablement pas. Néanmoins, quand tu vois comment il s'est comporté sur les pavés, que ce soit du Ronde, j'ai le souvenir aussi, c'était il y a 2 ans sur À travers la Flandre, avant le Ronde, Tadej Pogacar qui prend exprès le milieu du pavé et qui est surpuissant, cette étape du Tour de France aussi à Roubaix où c'est lui qui dynamite le peloton quand les Jumbo ont un problème, j'ai l'impression qu'un Paris-Roubaix ne lui posera absolument aucun problème. Et quand tu connais sa puissance sur les pavés, quand tu connais son tempérament offensif, c'est une course qui peut très bien gagner en solitaire. Donc pour moi, il aura beaucoup plus de difficultés à gagner Milan-San Remo qu'à gagner un Paris-Roubaix. Ça m'étonnerait peut-être même pas que la première fois qu'il s'aligne sur Paris-Roubaix qu'il a gagné la course.
Ouais. Paris-Roubaix qui ne fait pas partie de ses objectifs à court terme, je dis bien, et a donné une interview pour dire ses objectifs, ses prochains objectifs. Déjà, le premier objectif, il va être le meilleur cycliste de l'histoire. Ça, je lui souhaite bon courage parce qu'on a un Belge qui était plutôt pas mal. Mais voilà, ses objectifs, c'est un 3e Tour de France. Ça, je pense que c'est dans ses cordes. Les 3 grands tours, ça aussi, San Remo, le championnat du monde et les JO. Voilà donc pour ses objectifs. Mais après... Tout ça, on va pas débattre là-dessus pour dire est-ce qu'il est capable ou pas. On sait qu'il est capable, ces objectifs-là, il sait, il les a ciblés, il peut le faire. Mais est-ce que ça suffira pour être le meilleur cycliste de l'histoire, Rémi ? Je crois pas, non ? On est d'accord que il va falloir en empiler encore un petit peu plus pour être le meilleur cycliste de l'histoire.
Je pense que Merckx a mis la barre tellement haut que faudra pas multiplier les courses, gagner les courses différentes. Il faudra gagner les courses, toutes les courses plusieurs fois. C'est ça. Je vais y arriver. Hein. Je vais réussir à parler. Vous inquiétez pas. Merckx, il a tout gagné, mais oui, il a gagné tout plusieurs fois. Il a gagné Milan-San Remo 7 fois. C'était pas la même chose, mais ça reste la Primavera. Donc. Ça, c'est le nombre qui fera la différence. Et surtout qu'en plus, Merckx gagnait aussi avec ce tempérament offensif et il partait souvent de loin aussi. Donc, alors, c'était pas la même période, hein. Évidemment, on peut pas comparer les ères du cyclisme sans aller jusqu'au matériel, évidemment, qu'il y avait beaucoup plus d'amateurisme. Donc, c'était plus facile pour les meilleurs, mais voilà, il y a ce tempérament qui est très ressemblant du côté de Pogacar. Donc, voilà, il faut gagner tout et plusieurs fois et peut-être faire doubler 10 retours aussi. Alors ça, c'est peut-être un peu trop demandé, hein. Je ne demande pas ça pour le considérer d'ici 10 ans comme le meilleur cycliste de l'histoire, mais voilà, il faudra de toute façon marquer les esprits, faire des saisons comme il l'en fait depuis 4 ans maintenant et continuer à être insatiable.
Mais d'ailleurs, tu parlais d'ancienne génération. Si Tadej Pogacar arrive à ses objectifs qu'il s'est fixés, donc un troisième Tour de France, les trois grands tours, San Remo, le championnat du monde, les JO et Paris-Roubaix, donc ça sera aussi un peu plus tard pour lui. Tib, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme, parce que c'est comme les différents, j'ai envie de comparer un petit peu entre Michael Jordan et LeBron James aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, il y en a qui disent que c'était plus difficile avant, maintenant on score plus, donc c'est pour ça qu'on a plus de points, et là je compare au cyclisme, on score moins parce qu'il y a plus de concurrence, et donc du coup faire remplir tous ces objectifs, arriver à ce niveau-là, c'est comme si on était le meilleur cycliste de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu feras une comparaison en tout cas, si jamais il arrive à gagner tout ça?
Non, je pense que c'est impossible de faire la comparaison avec Eddy Merckx, qui a un nombre aussi de victoires dans sa carrière qui est monumental. Ah oui. Et au-delà du cyclisme sur route, il s'est aussi illustré sur le cyclisme sur piste, ce que Tadej Pogacar ne fera jamais.
C'est jamais avec lui.
Probablement que oui, Tadej Pogacar sera le meilleur coureur de l'histoire, mais de l'histoire moderne, le meilleur coureur peut-être du 21e siècle. Mais Merckx restera, je pense, au-dessus de lui en termes de palmarès. Ça, c'est indubitable.
Bon, il y a quelqu'un qui était au-dessus aussi sur le Tour de Catalogne, vous avez compris la transition, et ben c'est lui, c'est Tadej Pogacar qui a déjà plié le game hein, dès la deuxième journée de course. On l'a vu sprinter comme un diable pour essayer de récupérer Nick Schultz lors de la première étape, il n'y est pas arrivé, mais ensuite il avait largement les jambes le lendemain, donc aujourd'hui pour dominer largement ses concurrents, et plus d'une minute 20 pour Mikel Landa, son poursuivant dans l'étape du jour qui arrivait en altitude. Rémi Atib, là je pense que il n'y a plus aucun suspense. Pourquoi vous avez regardé la course jusqu'à la fin? Tiens, c'est quoi la Rémi, pourquoi, enfin déjà que tu regardes pas beaucoup de courses, qu'est-ce qui te ferait regarder en plus le Tour de Catalogne, c'est quoi?
Je sais pas, si Joao Almeida a des chances de monter sur le podium, et c'est le cas. En fait, aujourd'hui, les courses par étapes, je les regarde plus en attendant le suspense pour le classement général. Je me dis que d'un jour à l'autre, il peut se passer tellement de choses que je prends vraiment étape par étape, mais vraiment au sens strict du terme. On dirait un joueur de foot lambda qui te dit on prend match après match, mais là, c'est vraiment ça. Je regarde chaque jour de course comme s'il pouvait y avoir une immense dinguerie. Il y en a eu une aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais je ne fais plus attention aux classements généraux. Ça ne sert à rien quand il y a un Remco, quand il y a un Tadej, quand il y a un Vingegaard. De toute façon, il va écraser le classement général. Bon, sauf Remco, qui n'a pas gagné Paris-Nice, le loser, manifestement. C'est une blague pour nos amis belges.
Tu vas avoir des problèmes,
ouais. Ouais. Moi aussi, je vais être en prison, mais vraiment.
Ouais.
Non, mais voilà, enfin... Je regarde plus les classements généraux pour les classements généraux.
Mais d'ailleurs, ça faisait partie du débat. Hein. Je voulais en parler aussi. La type, c'est peut-être aussi ton sentiment. C'est vrai que maintenant, les courses par étapes, on l'a vu sur Tirreno avec Vingegaard, c'était plié très rapidement. Est-ce que tu as la même saveur quand tu regardes? Ou est-ce que tu regardes autre chose? Est-ce que tu regardes le cyclisme autrement, du coup, pour te mettre un petit peu de surprise, de suspense d'envie de regarder ce genre de course?
Je le regarde, mais tu sais très bien que quand les Émiratis vont rouler et que Tadej Pogacar est présent, il risque fort de gagner, sauf dinguerie, qu'il soit frappé par la foudre, je ne sais pas, qu'il ait une attaque de Sharknado. Mais c'est un peu pareil avec Vingegaard, quand la Visma Lease a Bike se met à rouler, tu sais très bien que il y aura pas de suspense. Et c'est peut-être en ça où il y a une différence avec un Milan-San Remo. C'est une course très chiante à regarder, mais au moins moins le final est indécis. Là, bah, tu connais le final. Après, il y a quand même d'autres intérêts. Tu vois quand même, pour le podium, il y a une, quand même une très belle densité. Hein. Là, je regarde de la deuxième à la huitième place, allez, on se tient en 30 secondes, qui est relativement un mouchoir de poche quand tu vois le reste du programme de la semaine. Donc, il y a encore des intérêts, mais les intérêts seront derrière Tadej Pogacar. Faut pas se concentrer sur le Slovène. Et de toute façon, quand tu regardes les interviews de toutes les autres équipes, ils savent très bien qui va gagner ce Tour de Catalogne et on se concentre un peu plus sur la bataille pour le podium. Et bah, ce sera aussi la question de demain, en fait. La question de demain, c'est est-ce que Tadej Pogacar va les laisser aux autres ou est-ce que son équipe va rouler pour que Tadej Pogacar aille la gagner? Bah, on peut aussi voir par un autre carcan, c'est que d'autres équipes vont rouler en se disant, bon, très clairement, la victoire, elle est jouée pour Tadej Pogacar, mais on a quelque chose à faire pour le classement général, donc on va aller rouler pour cette étape, mais on va rouler pour la deuxième place.
Ouais, mais c'est embêtant, j'ai envie de dire. Tu n'as pas la même saveur quand tu regardes quelque chose, ou genre, par exemple, la Milan-San Remo, oui. Tu ne regardes pas pour la première place, mais tu regardes pour celui qui a fait deuxième. C'est pour ça, en fait, ça qui m'embête. Moi, ce que je propose, c'est très simple, et je crois qu'on l'a dit sur Twitter, sur X, pardon. On fait des divisions. Genre, on fait une première division avec les gros cracks qui arrivent à se suivre entre eux, puis après, on en fait une deuxième avec les Mikel Landa, Lenny Martinez, Vlasov, etc. Comme ça, on est bien. Et puis, chacun fait sa course et tout le monde gagne.
Le problème, c'est qu'on a une division avec que deux coureurs les grands tours, à savoir Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant parce que c'est une transposition de ce qu'on avait déjà sur, par exemple, le Tour de France. On a toujours eu des coureurs qui étaient hégémoniques avec leur équipe et qui gagnaient, surgagnaient. Et le suspense s'était attitué. Hein. Christopher Froome, quand il était aligné sur le Tour de France, honnêtement, tu savais qu'il allait gagner son grand tour, sauf incident. Oui. Là, c'est à peu près le même principe, sauf que tu le transposes aussi sur les courses par étapes et peut-être aussi sur les classiques parce que tu as des équipes qui surdominent. Mais bon, faut essayer de trouver son plaisir peut-être ailleurs.
Bon, Rémi a trouvé
le paysage.
Son plaisir. Ouais, là, on a bien vu le paysage sur le Tour de Catalogne, étant donné qu'ils ont filmé pas le haut. Ça, par contre, ça, là, je suis désolé. On va peut-être faire
la réalisation espagnole, ça.
Ouais, nos chauvins, mais franchement, espagnol et Italie aussi. En Italie, je suis désolé, c'est à peu près aussi la même chose. Mais en Espagne, c'est le cas aussi. Mais c'est vrai que dès que c'est des conditions difficiles en altitude, le feed saute assez facilement. C'est ce qui est dommageable, ce qui n'est pas le cas en France, notamment dans les grandes courses, parce que évidemment que ça arrive dans les plus petites courses, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Aujourd'hui, fallait suivre la course sur Radio Tour. Au moins, on savait 2 minutes avant que Tadej Pogacar avait attaqué.
Ouais, parce que pendant un petit moment, on n'a pas vu Tadej Pogacar. On a juste appris qu'il avait attaqué, mais après, on a vu dans juste un groupe, donc où il y avait Lenny Martinez, Almeida, du coup Rémi pour toi, Mikel Landa, le flop aussi, Vlasov qui est toujours présent. Voilà pour ceux qui ont bien réussi à faire la course aujourd'hui. Et non, le vrai flop par contre, c'est la Visma, hein. Avec Kuss seulement 12e et Kian qui a fini très loin. Ça c'est rare de voir de voir la Visma aussi bas pour ce genre de course qui essaye de toutes les remporter. D'ailleurs, dernière chose avant de passer au quiz. Sur Kuss qui a donné une interview sur l'équipe en disant qu'il sentait libéré après sa victoire sur la Vuelta et qu'il pouvait même considérer le fait d'être co-leader sur les prochains grands tours, peut-être pas sur le Tour de France, mais de dire d'avoir un autre rôle un peu différent. Est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on le croit pas, la type?
Ça dépend quelle course.
Sur
le Tour de France, j'y crois absolument pas. Vingegaard est au-dessus dans toutes les catégories, que ce soit sur des étapes punchy, Stepkus n'a pas ce punch, sur les chronos où Vingegaard est visiblement sur les chronos vallonnés le meilleur coureur du monde, et en montagne, en haute montagne, Vingegaard l'est aussi, même si Stepkus excelle sur les cols qui sont très longs et très pentus, et même les cols au-dessus de 2000 mètres. Il y en aura pas mal sur ce Tour de France, mais j'y crois absolument pas. Sauf incident pour Vingegaard, Stepkus n'aura absolument pas son mot à dire sur ce Tour de France. Et même s'il y avait un problème pour Vingegaard, je pense qu'il se fait battre par la concurrence.
Bon, Sepkoski qui fait pas partie de ta stratégie sur le Tour de France, en tout cas pour aller remporter, sauf incident évidemment. Et quelqu'un qui faisait partie de notre stratégie aujourd'hui, qui devait être dans la dispo, qui devait être le quatrième homme, qui n'est pas là. C'est l'homme du quiz, vous le savez, Jérémy Sakian, qui, je vous explique, on devait avoir Jérémy Sakian. Qui devait être avec nous. Le problème, c'est qu'on le fait à distance, comme vous le voyez aujourd'hui. Des fois, ben, on a nos studios, enfin chez moi. Et là, il s'est pointé chez moi. Voilà. Donc, alors que je n'y suis pas. Donc, autant vous dire que c'était compliqué. Et on va devoir faire sans Monseigneur Sakian. Mais pas grave, parce qu'il m'a envoyé le quiz par mail et qu'il y a Théo, normalement, qui nous entend. Théo, est-ce que tu es là ?
Je crois que c'est bon.
Ah, c'est bon. Alors,
bonjour Théo.
Absolument voulu.
Bonjour Rémi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Putain, t'as une barbe et tout, t'as grandi.
Ouais. Ah oui, je suis majeur maintenant.
5 ans d'absence, putain. Ouais.
J'espère que t'as pas trop d'absence parce que là, c'est assez costaud. Puisque le quiz que m'a envoyé Jérémy, on va pouvoir le faire ensemble. Et Théo qui a remporté le quiz la semaine dernière, parce qu'il faut le dire, il y a eu des points mal comptés pour le chat. C'est Théo qui a remporté le quiz la semaine dernière. Ça a été récupéré la VAR. C'est parti.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
Il y a aussi Akola qui est dans le chat. S'il veut venir, Akola, sans la vidéo, il est bienvenu, mais il faut venir maintenant pendant que j'explique ce qu'on va faire. Alors, c'est sur Milan-San Remo, avec des coureurs qui ont fait top 10 sur cette course lors des dernières années, je regarde. Et en fait, je vais égrener les indices. Je vais égrener les indices à chaque fois. J'en fais le premier. Et vous avez le droit, à partir du moment où j'ai fait le premier indice, de donner... une réponse. Attention, vous n'avez le droit qu'à deux réponses par coureur à chaque fois. Non pas par indice, par coureur. Donc vous donnez les indices au bon moment. Est-ce que j'ai été clair ou pas ? D'habitude, c'est Jérémy qui s'en occupe. Hein. C'est beaucoup moins clair quand c'est moi, je le sais. Mais est-ce que vous avez compris ?
Oui, c'est beaucoup moins clair. Voilà. Mais on va essayer de s'en sortir.
Voilà, vous inquiétez
pas. On va s'en sortir. Y a pas, Anthony n'a pas compris, mais c'est pas grave.
Oui, bah, il a
pas
compris.
En gros, un indice difficile, vous avez le maximum de points. Et quand c'est plus facile, vous avez...
Merci Théo. C'est vrai qu'en fait, si vous donnez la réponse sur le premier indice, vous marquez plus de points que sur les derniers. Donc il y a 5, 4, 3, 2, 1. 5 points si vous trouvez sur le premier indice et 1 point si vous trouvez au dernier. Et 5, 4, 3, 2, 1. Ça va des crescendo.
Okay.
Bon, on va y arriver. Vous inquiétez pas, je vais faire le premier. C'est parti. Donc c'est un coureur non européen qui a fait un top 10 en deux participations. Top 10 en 2020 et j'étais sur Milan-San Remo cette année.
Matthews,
c'est pas bon. Donc tu n'as plus qu'un coureur à donner sur le reste des indices.
Il en a fait plus. Il en a fait 4 ou 5.
Je suis un coureur d'Intermarché ou anti-Gobert. Je ne sais plus dans quel ordre. Très bien. Le chat peut jouer. Hein. Ce n'est pas Alaf, monsieur Cola.
Non, c'est Bini.
Alors, est-ce que c'est une réponse ?
Ah, bah c'est bon, il a déjà deux réponses là.
Bah non, je demande, est-ce que c'est une réponse ? Ouais. Si c'est Bini. ce n'est pas Bini, mais c'est trouvé dans le chat. C'était Diane Smith, 7e en 2020, trouvé par Cactus sur vélo.
Ouais, d'accord. Ouais. Ouais.
Donc, victoire.
On y croit.
3
On
points,
y croit.
3 points pour le chat. Deuxième coureur. J'ai fait un podium et un top 5 sur MSR, un podium et un top 10 sur le Ronde, mais je n'ai jamais gagné en World Tour. Je répète, j'ai fait un podium et un top 5 sur Milan-San Remo, un podium et un top 10 sur le Tour des Flandres, mais je n'ai jamais gagné en World Tour. Ce n'est pas bon, ce n'est pas Turgis.
Pas pour le coup.
Je suis européen et à la retraite depuis 2020.
2020.
Ce n'est pas Sagan, on me le donne dans le chat. Voilà, je vous le donne, les Nina Essen d'ailleurs. J'enchaîne. Oui. J'ai été champion national d'un pays majeur du cyclisme en 2008. J'ai été champion national d'un pays majeur du cyclisme en 2008. Toujours pas. J'ai terminé ma carrière chez Movistar. Dernier indice. J'ai couru pendant 10 ans chez Lotto avant de partir un an chez BMC. Ah. Ce n'est pas Benati. Ça a été trouvé dans le chat. Ouais. Je vous laisse une seconde. C'est Jürgen Rolands, bon. Ouais. Vainqueur, Nathan de West. Le chat qui marque encore des points. 5 points d'ailleurs, j'ai mal calculé. 5 points pour le chat, 0, 0, 0. Eh bien, écoute, selon Jérémy Sakian, il n'a jamais gagné en World Tour, Jürgen Rolands.
Eh bien.
Prochain coureur. 13 participations mais un seul top 10 sur Milan-San Remo pour ce coureur actuellement chez Movistar. Le top 10 est un top 10, mais pas un top 5. Voilà.
Garcia Cortina.
Garcia Cortina, c'est pas bon. Je suis européen, étranger, mais j'ai couru dans deux équipes françaises.
Putain, je suis en train de me refaire la...
J'ai gagné une étape de Paris-Nice en 2015 au sprint devant Brian Cocard et Michael Matthews, tiens.
Timolai.
Timolai, c'est une bonne réponse de Théo qui marque donc 3 points. 5 pour le chat, 3 pour Théo, 0 et 0 pour la Tib et Rémi. Il reste encore, je ne sais pas combien de coureurs, mais je vous dirai stop. prochain coureur. J'ai 15 participations à Milan-San Remo. Un seul top 10, 10e seulement. Dernière édition disputée, c'était en 2019, année de ma retraite. Donc 15 participations, un seul top 10, 10e. Dernière édition disputée en 2019, année de ma retraite. Ce qui veut dire qu'il a pris sa retraite en 2019, pour faire court.
Oui, mais que ce n'est pas l'année de sa 10e place.
Non, ce n'est pas l'année de sa 10e place. J'ai couru 4 ans dans la structure FDJ, mais je ne suis pas français. J'ai 16 victoires pro, dont Gent-Wevelgem.
Philippe Gilbert ?
Non, Philippe Gilbert, c'est pas bon.
J'aurais dit pareil en plus.
J'ai couru chez Sky et Columbia. Alors, Morabito, c'est pas bon dans le chat. Donc, j'ai couru chez Sky et Columbia. Je suis germanophone. Germanophone, pas germanophone.
Germanophone.
Ouais, on adore les Allemands.
Germanophone. Il y en a beaucoup, des comme ça.
Germanophone et DS chez Bora. Ce n'est pas Benatti.
Ah, putain, je l'ai.
Aizel,
c'est une bonne réponse. Quatrième point pour Théo.
Bernard
Aizel. Ça a été donné juste après dans le chat. 4 points pour Théo qui est encore en lice. 5 points pour le chat. Et donc 0 pour les deux autres Gugus. Il reste encore 1, 2, 3, 4 coureurs. Tout est possible.
Ah. Et Anthony Colas qui fait le malin dans le chat.
Oui, après il n'aurait rien trouvé.
Mais qui n'a pas écrit un seul nom. Hein.
Oui. J'ai un seul top 10 sur Milan-San Remo, mais j'ai gagné un monument et les Strade Bianche. Un seul top 10 sur Milan-San Remo, mais j'ai gagné un monument et les Strade Bianche. Je suis retraité depuis 2014 et j'ai été ensuite suspendu 2 ans. C'est fort.
Oh merde. Ah, je l'ai. Attends.
Je l'ai. J'enchaîne. C'est pas Siolek. J'ai été coéquipier de Contador, Fuglsang, Nibali, Onchard et Celestino.
Putain, merde.
Celestino, décidément, est souvent là. Théo le sait.
Ouais, moi aussi, je l'ai.
Mon monument, c'est Liège-Bastogne-Liège.
Oui.
C'est pas loin pour Théo.
Ignatieff.
Non, tu es pas loin, mais c'est trouvé par Cactus sur un vélo qui marque donc 2 points pour le chat.
Merde.
Maxime Iglinski.
Iglinski, putain.
Et je suis kazakhstanais, c'était la dernière. Donc ça fait donc 7 points, c'est ça, pour le chat. Et toujours, et 5 points donc pour Théo, et 0 et 0 encore. Il reste 3 coureurs. Je vous dis direct, après je vais vous mettre en joker, les gars, parce que vous servez à rien. J'ai couru 5 fois Milan-San Remo, 3 did not finish, une fois hors du top 100 et donc une fois dans le top 10 entre 2000 et 2010. Je suis européen. Beaucoup d'indices, attends, je vais le répéter. Donc j'ai couru 5 fois Milan-San Remo, 3 fois je n'ai pas fini, une fois je vais finir hors du top 100 et une fois donc top 10 entre 2000 et 2010. Je suis européen.
Okay.
J'ai gagné. Okay. 3 fois, je suppose, mon championnat national du chrono. J'ai gagné un chrono sur la Vuelta et je suis monté sur le podium final de cette même Vuelta. Ce n'est pas Anthony Colas, selon Alexandre Mazel, non. Je viens de dire victoire. Donc, non. Toujours pas. J'ai été champion du monde espoir, puis j'ai couru chez Milram et HTC, Colombia. On enchaîne. Je suis issu d'un pays devenu majeur sur la carte du cyclisme grâce à une superstar. Et vous avez encore été battu par le chat qui a donné donc Peter Velits, qui est donc la réponse. Peter Velits, un Slovène.
Non, pas du tout.
Et la réponse d'Anthony, je vous la donne, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas les yeux sur le chat, qui dit un Slovène. Excellent, bravo. Alors, vous savez quoi ? Vu qu'il dit n'importe quoi, il y avait 2 points pour le chat. J'enlève 1 point pour le chat, voilà, qui n'a plus que 8 points. Ça permet, voilà, bravo. Juste pour ça. Ça permet aussi de rester dans la course. Allez, les gars, non, c'est encore possible pour la team et Rémi qui peuvent encore marquer des points. Donc, ça fait 8-5-0-0.
Heureusement que je suis venu parce que ça aurait été gênant sinon.
Je suis retraité. C'est vrai. Bah après, Anthony qui aurait fait perdre des points.
Tu m'as piqué Heisel sur le. Sur
oui, il y a aussi Glinski, tu l'avais le deuxième truc, tu l'as toujours pas donné. On l'attend toujours.
Oui, mais Glinski.
Je suis retraité depuis 2013, non européen et vainqueur d'une étape sur le Tour de France 2007 et deux étapes sur la Vuelta 99 et 2001. Je vais répéter. Donc je suis retraité depuis 2013, non européen, vainqueur d'une étape sur le Tour de France, c'était en 2007, et j'ai remporté deux étapes sur la Vuelta en 99 et 2001. J'ai gagné 35 fois chez les pros, et j'étais sprinter.
Doruchoft ?
Non, ce n'est pas bon.
Non européen, on a dit.
Alors à partir de là, faut scorer maintenant parce que sinon les gars, Tib et Rémi, c'est terminé.
Je vais dire un truc quoi. Non, c'est pas. Non,
j'ai
non,
couru
non.
dans
t'as,
l'ordre.
T'as dit que, quand la retraite
2013. J'ai couru dans l'ordre chez Lampre, Mapei, Rabobank, Phonak, Barlow World, Garmin, Radio Shack, puis Garmin encore. Lampre, Mapei, Rabobank, Phonak, Barlow World, Garmin, Radio Shack, puis Garmin encore.
Robert Hunter,
l'égalisation. Ah non, l'égalisation. Oh. C'est l'égalisation pour Théo. 8 points. C'est très simple. Vous êtes égalité, il reste qu'un seul coureur.
Oh. J'y suis allé au bluff total.
Théo, comme tu es ici parmi nous, tu peux choisir un joker. Si c'est vraiment un joker. Hein. Mais bon, tu peux choisir entre Latib et Rémi qui peut t'aider, on ne sait jamais, sur une fulgurance. Qui prends-tu ?
Là,
tu
peux pas dire. Latib. Je vais prendre Latib, Rémi, je ne l'ai pas entendu des.
Non, il a
même pas fait des propositions.
Il a frisé.
Mon micro est coupé.
Ok. Donc, et donc, du coup, Rémi sera avec le chat. Bon. C'est pas, celui-là est assez dur. Je vous dis que, bon, moi, je pense que j'aurai jamais.
Ah, c'est vrai que
c'est difficile. Bah, déjà,
je trouve que. Non, ouais, mais déjà, c'est dur. Mais là, c'est encore plus dur.
Ah, bah, c'est, mais c'est en fait, il a préparé le quiz dans son métro et il s'est dit je vais me venger, je vais leur faire que des questions de merde.
Anthony qui dit c'est bouffaze. Et non, c'est pas lui. Pour ceux qui ont la ref, il faut aller voir le quiz, bien sûr, que l'on a fait il y a quelques semaines. Allez le voir sur YouTube. C'est encore disponible. J'ai fait 5e de Milan San Remo. Je suis retraité et néerlandais. Dernier coureur, donc.
Néerlandais ?
Néerlandais. Et non pas germanophobe.
Irlandais, oui.
Germanophobe. J'ai 37 victoires en carrière, dont 2 sprints sur la Vuelta. Ce n'est pas bon pour Bogart dans le chat. 37 victoires en carrière, dont 2 sprints sur la Vuelta. Okay. J'ai couru chez Discovery Channel.
Ah putain, je le vois.
J'ai aussi porté les couleurs de Motorola, Rabobank ou Domo. Ça peut vous aider. Alors.
John Samir.
Mon prénom est la même que la plus grande star sportive actuelle de mon pays. Oula.
Oh, non, mais...
Or, Mathieu Van Der Poel y est marqué. Alors là, ce dernier indice, il est magnifique. Donc, mon prénom, c'est le même que la plus grande star sportive actuelle de mon pays, donc les Pays-Bas. Or, Mathieu Van Der Poel. Donc, essayons de deviner ensemble quel est le sportif le plus connu des Pays-Bas.
C'est Max Verstappen.
Voilà, tout à fait. Vous avez le prénom, il ne manque plus que le nom. Et c'est pas facile. Alors, c'est un nom qui est. Oui, alors on me dit De Jong, mais c'est qui est composé du coup. Il a couru sous l'ère Armstrong de mémoire dans Discovery Channel.
Bah, si. Oui,
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là, c'est très dur. C'est très très dur. Je peux pas donner votre indice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Ah non, Anthony, il a été déjà sur. C'est trop tard.
Sur
Pro Cycling Stats, il a la réponse.
Est-ce qu'on n'aurait pas encore une petite égalité là
Bah, dis-nous le nous, parce que là, franchement, on n'a même pas de position.
Max
Van Eyswijk. Je pensais à quelqu'un, mais c'était pas lui.
Max Van Eyswijk. Donc, Eyswijk pour les néerlandophones. C'était donc. Alors, il y a le chat qui a trouviché avant ça, mais comme j'ai donné beaucoup l'indice, c'est peut-être triché. Donc, je ne donnerai pas de points pour le chat. Je suis désolé. On va encore dire que c'est la mafia.
C'est le chat qui le trouve après oui. autant de temps, oui. autant d'indices, il y a du prosacrisat dans l'air. Hein.
Ça crie la mafia dans le chat, ça crie la mafia, c'est fabuleux. Il n'y aura pas de points accordés au chat, c'est dit maintenant. Donc, surtout que vous avez récupéré un point la semaine dernière alors que c'était pas bon. Donc c'est terminé. En plus, vous avez perdu un point grâce à Anthony Colas. C'est grâce à ça que vous perdez ce quiz. Ne l'oublions pas. Allez. Prenez le temps de craquer dans le chat en attendant, nous on va faire les paris. Théo, tu restes avec nous pour les paris ? Il y a bien plus de 5 minutes, allez.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, allez, qu'on mette les paris, c'est vrai.
Alors, pour les paris, on fait les paris non pas du Tour de Catalogne, c'est bon, ça c'est déjà fait, mais plutôt pour le Grand Prix E3 Saxo Bank, ce qui s'appelle maintenant E3 Saxo Classique, hein, donc je ne suis pas du tout à jour. Pour savoir qui va remporter cette belle épreuve. Avec normalement le retour de Wout Van Aert, il y aura aussi Mathieu Van Der Poel, un nouveau duel. Je vous donne aussi les autres coureurs présents, les autres gros noms. Binyam Girmay est là aussi, Julien Alaphilippe. Nous avons Kasper Asgreen, Matej Mohoric. Je vous donne les coureurs qui sont annoncés. Hein. Bettiol est là aussi, Stefan Kung, Mats Pedersen, qui sont annoncés. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument là. Pour eux, il y a du Tim Wellens et Michael Matthews, pourquoi pas, après son excellent Milan-San Remo. Les gars, qu'est-ce qu'on donne ?
Attends, je regarde la météo. Hein.
Ah oui, bah, monsieur Elvin Della est de retour, sûr, évidemment, il doit donner la météo. Alors, ça veut dire quoi ? Bon, alors, Rémi, attends, on n'a pas besoin de météo, nous, d'habitude, on fait au doigt mouillé.
Non, exactement.
Te dis que les 63 derniers kilomètres, c'est vent défavorable. 15 kilomètres.
Ça change rien à mon avis.
Oui, 15-16 kilomètres.
Ça veut dire qu'on va mettre autre chose que Van Der Poel et Van Aert, c'est ça que tu veux nous dire ?
Ça veut dire que je mets Arnaud Delis. Merci, au revoir.
Du coup, je mets Danny Van Poppel.
Ah, alors Arnaud Delis, oui, il est prévu, j'ai oublié de le donner. Donc Arnaud Delis pour Théo, Danny Van Poppel qui est là, enfin qui est prévu. Tu peux le donner aussi.
Hein, en tout cas, il est sur la start list.
Il est sur la start list. Donc Latib.
Ouais, sachant qu'il s'est crashé bien la dernière fois, là, pas sûr. Hein.
Ouais, bah, tu sais, il regarde pas le vélo, donc il peut dire n'importe
quoi.
Bah
oui, c'est pour ça.
Mats Pedersen.
Mats Pedersen, pourquoi ? Alors, on veut au moins tes explications, t'es le seul expert ici en prono et en météo. Et en pari. Oui, en météo aussi.
Sa forme, on peut estimer que ce sera peut-être un sprint réduit de quelques unités. Malgré tout, ça reste une course qui est sélective, donc Mats Pedersen.
Okay.
Je pense que Mats Pedersen est au-dessus d'un Arnaud Delis au sprint.
Très bien. Eh bien, on verra ça. Vous allez vous disputer la victoire. Ce sera donc vendredi, c'est ça, le 3. C'est parce qu'il y a Gent-Wevelgem après oui, le vendredi, dimanche, ouais. C'est ça. Voilà donc pour le 3. C'est pour moi la classique qui m'excite presque le plus parce que l'année dernière, elle avait été plutôt somptueuse. Voilà donc pour les paris, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Mais ça sera un petit peu plus tard parce que vous savez ce qu'il y a la semaine prochaine, le week-end prochain. Le Tour des Flandres, donc on va essayer de faire un petit podcast en se rapprochant le plus près de la course pour faire une petite preview. Donc il n'y aura pas Anthony Colas parce qu'il ne sait pas les faire. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout dans le chat. Merci à Théo pour avoir apporté un maximum de points pour nous.
Une petite pensée à Jérémy qui est encore dans le tram à cette heure-ci.
Ouais, Jérémy qu'on a essayé d'avoir, qu'on essaiera évidemment de vous donner des nouvelles dans les prochaines minutes.
Je ne le remercie pas hein, parce qu'au vu du quiz qu'il nous a proposé.
Bah ouais, et surtout qu'il y avait un très mauvais compteur en face. Merci à la team, merci à Rémi. À l'année prochaine pour Rémi et puis à bientôt pour la team. Salut à tous les gars.
Allez, salut. Ciao. Ciao.
Salut.
Ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.